RFI, grand reportage.
Amélie Tullet.
Bonjour à tous. Quelle énergie pour demain? Dans leur dernier rapport, les experts climat de l'ONU rappellent l'urgence d'arrêter l'exploitation des énergies fossiles. Ce sont donc de nouvelles énergies, le soleil, l'eau, le vent, la géothermie ou encore d'autres sources à l'état d'expérimentation qui ont vocation à se développer. La France s'est fixé l'objectif de 32% d'énergie renouvelable d'ici 2030. L'opinion y est favorable. Les Français considèrent même que c'est une priorité, mais la route est encore longue. 100% d'énergie renouvelable, est-ce possible? C'est un grand reportage de Christine Siebert.
L'eau est une classique parmi les énergies renouvelables. Qu'elle coule dans les torrents de montagne ou qu'elle soit stockée dans des lacs de barrage qui alimentent les centrales hydrauliques.
Donc nous sommes ici sur le site de Serre-Ponçon. Alors pourquoi on tient autant à ce site de Serre-Ponçon? C'est que c'est tout simplement un site qui est emblématique pour la production d'hydroélectricité.
Sébastien Bialaret est le chef du barrage et de la centrale EDF de Serre-Ponçon, située dans le département des Hautes-Alpes. C'est un barrage gigantesque. Son volume représente 6 fois la pyramide de Khéops et la puissance de la centrale est elle aussi considérable.
Donc la centrale de Serre-Ponçon aujourd'hui a une puissance de 380 MW. Si on prend maintenant l'ensemble du complexe chaîne hydroélectrique du Hans-Verdon, l'ensemble de ces centrales, il faut avoir en tête que ça représente une capacité de puissance de près de 2000 MW. Donc c'est l'équivalent de 2 tranches nucléaires. Donc on va rentrer dans la centrale. Voilà, on va rentrer.
La centrale de Serre-Ponçon ne fonctionne pas 24 heures sur 24, mais pendant les pics journaliers de consommation, explique Sébastien Bialaret.
Nous, l'hydroélectrique, notre force, c'est de satisfaire ces besoins de consommation de pointe parce que nous, on peut démarrer en près de 10 minutes.
L'hydraulique et les autres énergies renouvelables ne représentent que 9% de la production d'EDF en France métropolitaine. C'est l'énergie nucléaire qui fournit la plus grosse part, à savoir 88%.
C'est des moyens qui sont complémentaires. Les énergies renouvelables, comme le solaire ou l'éolien, c'est des énergies qu'on appelle intermittentes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas choisir le moment de la journée où on va produire, c'est la nature qui va le décider. C'est s'il fait du soleil ou s'il fait du vent. Et puis en termes de puissance, quand on compare une centrale nucléaire avec une centrale éolienne, on est sur des échelles qui sont des ordres de grandeur qui sont complètement différents.
Mais EDF n'est plus le seul producteur d'électricité en France. En 2007, le marché a été ouvert à la concurrence. Aujourd'hui, tout citoyen peut en principe produire de l'énergie en mettant des panneaux photovoltaïques sur son toit, par exemple, ou s'il habite à côté d'un torrent, en installant une turbine. Et tous ces petits producteurs contribuent à agrandir la part des renouvelables. Il n'empêche que la France est encore loin du compte, estime Anne Pringot du réseau pour la transition énergétique Claire.
En France, on est à peu près à 15-16% d'énergie renouvelable, alors qu'on devrait aller à 23% en 2020. Donc on est vraiment très en retard sur notre objectif. Et sur l'électricité, on est à peu près à 20% d'énergie renouvelable dans l'électricité en France, qui est également insuffisant par rapport aux objectifs qu'on se fixe.
Là, c'est le trop-plein. Le débit d'eau.
À vol d'oiseau, nous ne sommes pas très loin de Serre-Ponçon. Nous nous trouvons en plein milieu des montagnes. Le refuge Laval est niché dans les rochers en face de la barre des écrins et il n'est pas connecté au réseau électrique.
Là, il y a 30 cm de surélévation.
Cette fois-ci, l'installation n'est pas gigantesque, mais à taille humaine. C'est une turbine qui tourne en permanence au sein d'une picocentrale, donc d'une toute petite centrale.
La machine infernale. Qui est très très bien.
Cette machine infernale fournit largement l'énergie dont le refuge Laval a besoin. Henri Pross est le gardien du refuge.
Et j'ai 2 kilos qui sont réservés à mon cumulus électrique et 4 kilos aux prises, en parenthèse, et l'éclairage. Et ce qui n'est pas consommé est réparti dans des dissipateurs. Donc c'est des radiateurs électriques, en fin de compte, hein, qui chauffent.
Mais de toute façon, c'est constant, non?
C'est, oui, 24 heures sur 24, 6 kilos 24 heures sur 24. Donc la nuit, il n'y a pas trop de production de consommation électrique. Donc il y a une surproduction des radiateurs, c'est pour ça qu'on est bien dans le refuge.
Une turbine qui tourne en permanence, Sébastien Louvet en rêve. Il est gardien du refuge de Chamoissière, dans le massif des Écrins, juste en face. En raison de difficultés administratives, il a pour l'instant renoncé à sa turbine, malgré le torrent à proximité du refuge. Il produit son énergie surtout grâce à des panneaux photovoltaïques.
Eh ben, on est en tri-énergie puisqu'on a du photovoltaïque, environ 15 mètres carrés de photovoltaïque. Et ensuite, on a de l'eau chaude thermique pour chauffage et eau chaude. On a pareil 10 mètres carrés. Et il y a 2 ans, j'ai installé une petite éolienne. On est complètement autonome. Tant qu'il fait beau, j'ai aucun souci avec des frigidaires, un congélateur, même du chauffage électrique quand j'ai le surplus. Après, c'est vrai que si je sais qu'il y a 3-4 jours de mauvais temps, bon là, je commence à faire un peu attention. Si j'ai la scie circulaire à faire tourner, des travaux à faire, je me dis bon, attends, j'attends, je le ferai après. Voilà, on gère un peu aussi, je dirais, notre rythme de vie en fonction de ça.
Sébastien Louvet inverse donc la logique. Dans son refuge, la devise n'est pas « on consomme tant, donc on doit produire tant », mais au contraire, la consommation s'aligne sur ce que le soleil et le vent fournissent.
On fait avec ce qu'on a. Donc ces refuges, ça reste quand même des avant-postes de la sobriété énergétique et de l'attitude qu'on devra avoir, je pense, d'ici 10 ou 15 ans, parce que l'énergie, il ne faut pas arrêter. Hein.
Et les randonneurs qui viennent au refuge jouent le jeu.
Exemple type, au départ, dans les douches, parce qu'on a des douches chaudes au refuge. Et du coup, tu expliques aux gens, tu leur dis « bon, ben voilà, l'eau chaude, c'est du solaire, donc il y a ce qu'il faut pour tout le monde, mais on fait pas à MAM, quoi. Ça passe très bien, on n'a jamais de soucis d'eau chaude. » Donc les gens, tu les sensibilises. Pareil sur l'électricité, tu sais, quand tu leur dis « quand il n'y a plus, il n'y a plus », renouvelable, ça ne veut pas dire inépuisable. Hein. Et ça se passe bien, ouais. Je pense que les gens, ouais, ils repartent de là en se disant « bon, c'est pas pour ça que chez eux, ils vont faire gaffe et que ça ne va pas rester Versailles, mais je pense que petit à petit, tu passes des couches comme ça, tu vois, de sensibilisation et ça finit par imprégner, ouais. »
Nous avons quitté les montagnes. Nous sommes à présent à Pertuis, une petite ville près d'Aix-en-Provence, dans le sud de la France. Ici, l'urgence de la transition énergétique s'est déjà fortement imprégnée dans les esprits.
Voilà, donc là, on a une autre installation photovoltaïque qui est posée sur les vestiaires du gymnaste. Voilà, donc on voit les panneaux qui sont sur une partie de la toiture.
Jean-Michel Servant est l'un des pionniers de l'énergie photovoltaïque. Cet ingénieur a commencé à s'intéresser à l'énergie du soleil dans les années 70. Et aujourd'hui, il œuvre au sein des centrales villageoises du pays d'Aigue, une initiative citoyenne dont l'un des objectifs est d'installer des panneaux photovoltaïques sur autant de toits que possible, dont bien sûr les toits des bâtiments publics, les écoles par exemple.
Les écoles, c'est très bien, effectivement, quand les municipalités sont intéressées et qu'on fait une installation sur une école, ça a pour nous beaucoup d'avantages. On a des grandes toitures, on a des parents d'élèves qui s'intéressent du coup au photovoltaïque, donc ça nous permet de faire de l'animation et d'expliquer ce que l'on fait autour de l'installation. Et puis, ça nous permet aussi d'être visible dans la collectivité.
L'autre protagoniste des centrales villageoises du pays d'Aigue est Jean-Michel Bosteter, son président. Visite d'une crèche municipale, elle aussi couverte d'un toit photovoltaïque, en compagnie de ces deux inconditionnels de l'énergie solaire.
Là, la crèche est fermée. Tu as déjà montré une armoire, non ?
Pas encore. On a vu celui du CTM. Là, en fait, c'est complètement caché dans une grande armoire. Voilà. Parce qu'on est dans le domaine public avec des enfants, etc. Donc on retrouve les mêmes éléments, l'onduleur, les coffrets de raccordement qu'on a vus sur le CTM et le fameux appareil qui permet de dialoguer.
Ce qu'on appelle du mot anglais monitoring, appareil qui permet de connaître la production journalière. Donc tous les matins, je commence ma matinée par aller voir la production de nos 11 toitures.
Et c'est avec la même passion que Jean-Michel Bosteter préside les centrales villageoises. Voilà comment cela fonctionne.
Alors une centrale villageoise, pour nous aujourd'hui, c'est une grappe de toitures photovoltaïques raccordées au réseau EDF. Nous louons les toitures aux propriétaires, publics ou privés, et nous revendons la totalité de la production à EDF, selon le barème réglementé. Au départ, nous étions 8 fondateurs en 2015 et maintenant, nous sommes 116 actionnaires de cette société. Le principal avantage, évidemment, c'est que ça mobilise et ça crée un lien entre les citoyens. Et puis, c'est réalisé dans un but éthique.
Cela va de soi, les actionnaires des centrales villageoises n'ont pas pour but de s'enrichir. Les bénéfices sont réinvestis dans de nouveaux projets.
Dès qu'on pourra dégager en fait, de l'argent qui nous permettront de refaire un projet, on redémarrera un projet. On ne redistribuera pas de dividendes, sauf que les actionnaires seront attribués au bout de 3 ans à 3%.
au taux du livret d'épargne d'il y a quelques années, mais il n'y aura pas de redistribution des bénéfices ou des dividendes.
Nous engageons également des actions en faveur des économies d'énergie qui, elles, concernent tous les citoyens. L'aide sera sous la forme de la mise en place, financée par notre société, d'un programme d'économie d'énergie qui s'appelle Famille à énergie positive et qui permet à tous les citoyens de faire des économies d'énergie significatives et d'agir pour la planète et les générations futures.
Et ces générations futures se saisissent, elles aussi, du sujet.
Du coup, on peut commencer par les questions.
Ces trois lycéennes réalisent un TPE, un travail en groupe, sur les énergies renouvelables. Elba Torregrossa, Farasso et Magdalena Marulanda préparent un bac scientifique, un bac S, dans un lycée de la région parisienne. Et ce jour-là, elles sont allées voir le physicien et chercheur au sein du CNRS Lydéric Bocquet, dans son laboratoire au sein de l'École normale supérieure. Lydéric Bocquet travaille entre autres sur l'énergie osmotique.
Donc en premier, pouvez-vous nous expliquer le fonctionnement d'une centrale osmotique ?
L'idée générale, c'est l'inverse de la désalinisation. Dans votre cuisine, vous pouvez faire de l'osmose. Hein. C'est ce qu'on pas encore met du sel sur les concombres. Pour enlever l'eau, c'est de l'osmose, en fait. C'est très basique. Hein. L'osmose, il y en a partout. Et en fait, c'est que associé à l'osmose, il y a des forces et des énergies considérables. Si vous mélangez, par exemple, de l'eau de mer et de l'eau de rivière à travers cette membrane, eh ben, la pression qui va s'exercer naturellement sur la membrane, c'est... alors, je ne sais pas si vous avez vu les pressions en cours de physique, mais c'est typiquement ce qu'on appelle 30 atmosphères ou 30 bars. Une pression de 30 atmosphères, c'est typiquement la pression qu'on a à 300 mètres de profondeur dans l'océan. Ça veut dire que c'est l'équivalent d'un barrage de 300 mètres de hauteur. Donc c'est gigantesque. Et ça, vous le faites dans votre cuisine. Donc en fait, avec de l'eau salée, finalement, on arrive vite à des forces considérables. Donc simplement, ces forces considérables, c'est pas facile de les récupérer.
Et voilà pourquoi il faut poursuivre pour l'instant la recherche avant de pouvoir exploiter cette énergie à grande échelle.
Effectivement, c'est une source qui n'est pas du tout exploitée actuellement. Là, on est dans une phase où les technologies ne sont pas encore inventées. C'est-à-dire qu'il y a, je vous ai parlé de cette usine pilote Statkraft qui est en veille parce que ça ne marche pas bien. Mais, donc là, on a créé une start-up en fait. Donc c'est celle de Rennes là, dont vous parliez. Et ça nous permet de dire, on essaye de passer de la recherche académique à arriver à un stade qui est pré-industriel. C'est-à-dire à un moment donné, c'est un très long processus, vous voyez, pour arriver, passer d'une idée à une entreprise. Et la start-up, c'est un peu le processus intermédiaire. C'est l'étape intermédiaire qui permet de faire des prototypes, qui permet de convaincre les industriels. Ça marche, effectivement. On arrive à le faire à un stade qui peut vous intéresser. À ce moment-là, la technologie, maintenant, ça vaut le coup de mettre 10 millions d'euros, 20 millions, 100 millions d'euros pour aller plus loin.
Et selon Lydéric Bocquet, le potentiel est immense.
Cette eau salée, il y en a beaucoup, beaucoup sur Terre. Il y a aussi beaucoup de, par exemple, de fleuves qui s'écoulent dans l'océan. Et donc, ces fleuves qui s'écoulent dans les océans, c'est entre guillemets de l'eau propre, enfin de l'eau sans sel, qui va vers de l'eau salée. Globalement, sur la Terre, si on fait tous les estuaires, les rivières qui vont dans les océans, tout ça, des estimations grossières disent qu'il y a à peu près 2 terawatts à récupérer. C'est à peu près l'équivalent de 2000 réacteurs nucléaires. Sachant que sur Terre, actuellement, il y a 440 réacteurs nucléaires.
Il faudra encore quelques années de recherche, selon Lydéric Bocquet, entre autres pour trouver des membranes plus efficaces. Mais la question suivante se pose dès à présent.
Pensez-vous que les énergies renouvelables pourraient couvrir l'intégralité des besoins énergétiques mondiaux ou en arriver proche jusqu'à remplacer les énergies fossiles ?
Je crois pas, en fait. question très compliquée. Hein. Sans baisser notre consommation d'énergie, c'est-à-dire si on veut maintenir ce stade actuel, les énergies renouvelables actuelles ne pourraient pas suffire. Par exemple, je vous donne un exemple, voilà, un calcul que j'ai fait récemment, très simple. Donc admettons qu'on passe tout le parc automobile électrique et qu'on conduise comme maintenant. Enfin, on a des consommations gigantesques d'essence, hein, donc on a une énergie folle qu'on achète pour faire rouler nos voitures. Eh ben, en fait, pour faire à peu près l'équivalent du nombre de kilomètres qu'on fait actuellement, il faudrait en plus 13 centrales nucléaires. Donc, en plus, Voilà. Et si vous voulez justement, vous voulez pas de centrale nucléaire, vous dites ok, je vais faire ça avec de l'éolien, il faut couvrir la Corse avec des éoliennes. Et donc après je vous laisse discuter avec les Corses.
Oui, mais enfin, c'est tout l'enjeu de notre TPE en fait. Quand on a vu les chiffres en fait de la consommation mondiale d'énergie, d'électricité, qu'on a vu le rendement de ce qu'on avait déjà, on s'est dit non, c'est pas possible. Et là on essaye en fait de réfléchir à comment est-ce que ce serait possible pour répondre oui. Pour pas seulement répondre à nos problématiques, non, c'est impossible, mais en fait pour faire une ouverture. En mode, c'est possible avec plusieurs conditions. Par exemple, j'avais trouvé un chiffre qui était énorme. C'était sur notre facture d'électricité. En fait, en France, il y a 20% en fait, qui sont considérés comme gaspillés. En fait. Si on considère que ce chiffre, c'est à peu près le même dans tous les pays développés, on se rend compte que la quantité d'énergie qui pourrait être économisée est vraiment énorme. Donc c'est ça, en fait... Un des enjeux de notre TPE, c'est de comprendre en fait quel serait le modèle vraiment qui permettrait d'avoir un monde 100% renouvelable.
Votre démarche, je la trouve super parce que il faut se poser les questions comme citoyen et citoyenne. Il faut se poser les questions, mais de façon objective. C'est-à-dire, et pour ça, il faut mettre les chiffres et pas croire forcément. Prendre brut de pomme ce que les politiciens nous disent ou ce que la presse nous dit, désolé. Et donc il faut être éclairé là-dessus, et c'est seulement si on est éclairé qu'on prend conscience du problème et qu'on veut agir. Parce que sinon on se lave les mains, on dit ça marchera, voilà.
Et justement, l'association Negawatt, qui œuvre pour la transition énergétique, souscrit pleinement à une démarche de citoyen éclairé. Negawatt a donc élaboré, en se basant sur des données objectives, un scénario 100% d'énergie renouvelable. Thierry Salomon est le vice-président de l'association.
On est absolument capable en France de fonctionner avec 100% de renouvelables à un horizon, pas demain matin, mais à un horizon qui est 2050. On est un groupe d'à peu près une vingtaine d'ingénieurs, de gens qui travaillent dans le domaine de l'énergie, sur des projets concrets, etc. Le scénario qu'on a travaillé était un scénario sur lequel on a regardé ce qui allait se passer heure par heure. Jusqu'en 2050, sur une modélisation. C'est-à-dire que c'est la réflexion que vous venez de dire, est-ce qu'elle est étayée par une simulation et une modélisation ? C'est ça un petit peu la question. On ne cache pas que c'est difficile sur le plan du stockage, mais il y a des réponses qui sont des réponses tout à fait astucieuses, et en tout cas qui utilisent des techniques, des technologies qu'on a déjà.
100% d'énergie renouvelable, c'est donc possible selon ces ingénieurs de Negawatt. Mais concernant l'électricité, c'est le nucléaire qui bloque leur développement, affirment ces ingénieurs. Sur le réseau, il faut que l'électricité d'origine atomique cède la place aux autres énergies. Et dans les caisses, il faut que l'argent soit destiné au développement des énergies renouvelables et des technologies de stockage. Or, pour l'instant, d'immenses sommes vont au nucléaire, souligne Christian Couturier, le président de l'association Negawatt.
Le nucléaire, il va être confronté à un mur financier énorme, parce que s'il faut renouveler, s'il faut gérer les déchets, etc., enfin, c'est un problème assez gigantesque aujourd'hui. Plus tous les chantiers qui seront engagés à l'étranger, que ce soit en Finlande ou au Royaume-Uni, et qui ont des dépassements de budget, de délai de réalisation, etc., ben tout ça, ça va plomber, ça plombe déjà les caisses d'EDF. Et donc on a un peu la peur que tout ça, ça soit de l'argent qui manque aussi aux renouvelables.
Et Anne Pringot, du Réseau pour la transition énergétique, estime que les blocages administratifs constituent également un frein important au développement des énergies renouvelables.
Et il y a beaucoup de blocages aussi réglementaires qui font que les nouveaux projets ne sortent pas à la vitesse voulue. Par exemple, on n'a pas du tout d'éolien offshore en France. Il faut lever les freins, par exemple, sur l'éolien. Il y a encore beaucoup de zones où il y a des radars, des zones de défense militaire qui sont très larges, où on ne peut pas mettre d'éoliennes alors qu'on pourrait en mettre. Il y a des freins sur le photovoltaïque. Il y a certaines villes qui interdisent les panneaux solaires sur les toits parce que ça ne serait pas compatible avec la préservation du patrimoine. Il y a des charges qu'on pourrait couvrir de panneaux solaires puisqu'on ne peut rien y planter et on ne peut pas le faire parce que c'est en zone de loi littorale, par exemple. Donc il y a beaucoup de freins réglementaires à lever pour permettre un développement plus ambitieux des renouvelables.
Il faut donc beaucoup de volonté politique, des citoyens de plus en plus prêts à consommer moins d'énergie, et il faut enfin un vrai soutien pour la recherche scientifique, et alors peut-être ce sera bel et bien possible. Un grand merci à tous les participants. 100% d'énergie renouvelable, est-ce possible ? Un reportage de Christine Siebert, réalisé par Eva Mouchinski.